franceinter.fr.
Depuis la découverte des ondes gravitationnelles, les spécialistes de la matière noire sont en alerte. Vous vous souvenez peut-être, ça s'est passé le 12 février dernier sur l'antenne. Et c'était de la transcription sonore d'une collision de deux trous noirs massifs comme 30 fois le Soleil qui a permis justement aux scientifiques de LIGO de détecter pour la première fois les ondes gravitationnelles. Et si par la même occasion, LIGO avait également détecté la matière noire, bien c'est l'hypothèse proposée cette semaine par un physicien, Alexander Kaslinsky de la NASA, et dont nous discutons aujourd'hui avec vous, Alain Riazuelo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien spécialiste des trous noirs à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors pourquoi cette détection des ondes gravitationnelles a relancé l'hypothèse concernant la matière noire?
Alors, l'idée est la suivante. On sait que les étoiles massives qui existent en petit nombre dans l'univers évoluent et donnent finalement des trous noirs. Mais on s'attend à ce que ces trous noirs soient d'une masse modérée, c'est-à-dire de l'ordre de 10-15 fois la masse du Soleil. Et voilà que lors de la première détection de la collision de deux trous noirs, on trouve des trous noirs de 30 fois la masse du Soleil. Et donc ça, c'est une surprise. On s'attendait pas à ce que ces trous noirs soient aussi gros. Et ça pose donc immédiatement la question, est-ce que ces deux trous noirs dont on a surpris la collision avec un milliard d'années de retard, est-ce que ces deux trous noirs sont issus de l'évolution de deux étoiles massives ou est-ce que c'est autre chose ? Et cette autre chose, ça pourrait être des objets beaucoup plus anciens qui se sont formés pendant le Big Bang et qui ont acquis cette masse lors de leur formation ou lors de leur évolution successive et qui, aujourd'hui, forment une population de trous noirs supplémentaire de celle des étoiles massives.
Ça veut vraiment dire que cette matière noire, on la comprend pas parce qu'on la cherche à toutes les échelles, hein, que ce soit la particule ou le trou noir.
Exactement. C'est-à-dire que dans les années 30, on a inventé ce concept de matière noire. On a observé les premiers groupes de galaxies. On s'est rendu compte que ces galaxies se déplaçaient à des vitesses importantes dans des groupes de galaxies et qu'il fallait donc une masse importante pour les garder les unes auprès des autres. Donc on a dit, on ne voit pas toute la masse de ces galaxies ou de ce groupe de galaxies. Et à partir de ce moment-là, le mystère longtemps le plus complet a plané sur la nature de cette matière que l'on ne voyait pas. Pendant longtemps, on a pensé que c'était de la matière ordinaire. Aujourd'hui, on pense que ce n'est pas de la matière ordinaire.
Et combien de pourcentage ça représente d'ailleurs dans l'univers?
C'est un pourcentage important puisqu'il y a en masse à peu près 6 fois plus de cette matière noire que de la matière ordinaire.
Voilà, donc cette matière qui nous constitue, elle est très minime au fond.
Voilà, c'est dans l'inventaire complet, on a à peu près 2/3, c'est-à-dire 65-70% de ce qu'on appelle l'énergie noire, dont on ne sait pas ce que c'est, on n'est même pas sûr que ce soit
Là aussi, le voile du mystère plane.
Exactement.
Sur le sujet.
Voilà, c'est le secteur sombre de l'univers, comme on l'appelle.
Ouais.
Donc cette énergie noire, qui est probablement même pas composée de particules individualisées, et dans le tiers restant, on a une grande partie qui est composée de matière noire, c'est-à-dire autre chose que des particules de matière ordinaire, autre chose que des atomes.
Est-ce que les données publiées en février là, vont vraiment nous permettre d'aller plus loin dans cette hypothèse de la matière noire ?
Donc pendant longtemps, l'hypothèse la plus conservatrice, c'était de supposer que la matière noire était composée de particules microscopiques. Donc autre chose que des atomes, mais des objets d'une taille absolument microscopique. Et on avait espoir depuis 15-20 ans de détecter directement cette matière noire par sa faible interaction avec la matière ordinaire. Malgré l'augmentation des moyens, malgré la sensibilité croissante de ces expériences, on n'a pas encore trouvé directement cette matière noire sous forme microscopique. Donc évidemment, le candidat qui n'était pas le candidat naturel reprend un peu du poil de la bête. Et si la matière noire était composée d'objets beaucoup plus gros, beaucoup moins nombreux en nombre dans une galaxie, mais qui auraient la masse suffisante pour expliquer cette matière noire. Et donc, cette hypothèse a été d'autant plus relancée que l'observation des ondes gravitationnelles a mis en évidence des objets différents de ce que l'on attendait à ce moment-là.
Alain Riazuelo, si j'ai bien compris, et pour résumer, la matière noire, donc selon cette hypothèse, ce serait des trous noirs, tout simplement.
Exactement.
Mais c'est quand même pas rien de dire ça.
c'est pas rien, ce sera un changement de paradigme important. Et donc, c'est ça qui explique l'excitation qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que on a quelques observations qui sont une mauvaise surprise, on a quelques observations qui sont inattendues, et on se dit, mais peut-être que, en fait, pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années, on s'est trompé sur la nature supposée de cette matière noire, et peut-être que c'est complètement différent.
Ah, la science, hein, ça, c'est vraiment le cheminement de la pensée, que vous nous décrivez.
La glorieuse incertitude de la science.
On peut espérer que LIGO et Virgo détectent de nombreux événements dans les prochaines années et qu'on puisse répondre à cette question rapidement?
Alors, une façon de renforcer ou d'affaiblir cette hypothèse qu'il existe une population de trous noirs plus massifs que les trous noirs stellaires, c'est de détecter un grand nombre de ces collisions de trous noirs. L'expérience LIGO, en 2 jours de prise de données, a détecté un événement. Elle a en fait pris des données pendant 4 mois qui n'ont pas encore été publiées. La statistique incite à penser que des événements ont été détectés dans ces 4 mois de prise de données, et il est probable que l'annonce des résultats de l'analyse de ces 4 mois de prise de données soit faite dans les jours ou dans les semaines qui viennent.
Ça va quand même annihiler des années d'années de rêves et de fantasmes autour de la matière noire si c'est juste des trous noirs.
Oui et non, parce que c'est une chose de dire que une partie de la matière noire est composée par ces trous noirs, c'est une autre de dire que la totalité est
composée. Ah, ce serait une partie seulement.
C'est la grande question. On sait qu'il existe au moins une population d'objets qui forment cette matière noire, mais rien n'assure qu'il n'y en a qu'un. D'ailleurs, matière noire et énergie noire sont deux entités distinctes. Donc on sait que dans ce secteur sombre de l'univers, il y a au moins deux choses différentes. Mm-hmm. Peut-être qu'il y en a une troisième.
Ils seraient gros, ces trous noirs, à l'origine donc de la matière noire ?
Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trous noirs issus du Big Bang, qui font moins de 10 fois la masse du Soleil, et on sait qu'il n'y en a pas qui font, très peu, qui font plus de 100 fois la masse du Soleil. Il y a un tout petit intervalle de masse, entre 10 et 100 fois la masse du Soleil, où il est possible que des trous noirs issus du Big Bang existent. Et c'est en connaissant mieux ces populations, par exemple en sondant leur masse quand ils entrent en collision, qu'on pourra en savoir plus.
Là, on parle de masse, mais en termes de taille, ça donne quoi sur ces trous noirs ?
Alors, un trou noir a un rayon qui est 3 km fois sa masse en unité de la masse du Soleil. Donc, si vous transformez le Soleil en trou noir, il a un rayon de 3 km.
C'est tout petit.
Un trou noir
c'est minuscule.
De 30 fois la masse du Soleil, c'est 100 km, donc c'est encore très petit.
Ouais.
Mais c'est des objets qui sont importants et dont l'influence se fait sentir à grande distance.
Voilà, mini-taille, mais ils font le maximum, apparemment, pour la matière noire. Merci beaucoup Alain Riazuelo, et donc à suivre, hein, parce que c'est quand même une belle hypothèse présentée donc, cette semaine. Merci beaucoup à tous les deux, à demain Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le téléphone au volant n'est pas la seule situation à risque qui inclut les portables. On les appelle les smombies, mélange entre smartphone et zombie. Ce sont les piétons qui marchent le nez dans leur téléphone. Selon une étude d'un assureur, les accros aux portables seraient à l'origine d'environ 11 000 accidents corporels en 2014. C'est 19% de l'ensemble des accidents. 77% des personnes interrogées disent téléphoner en marchant et ce chiffre grimpe à 95% pour les 18-24 ans. Une déconnexion de la réalité qui entraîne des comportements à risque puisqu'une personne sur 6 avoue déjà s'être cognée contre un poteau. Et si ce n'était que ça, 8% des sondés affirment s'être déjà fait renverser avec 13% pour les 18-24 ans. Les chercheurs anglais ont identifié 5 gènes architectes à l'œuvre dans notre nez. Ils ont comparé les traits faciaux et le génome de quelques 6000 volontaires d'origine diverse vivant en Amérique latine. Le but était de connaître le rôle de chaque gène humain afin d'aider à reconstruire le chemin évolutif qui a mené à l'homme moderne. Parmi les gènes du nez, 3 ont connu une évolution rapide, certainement influencée par les différents climats de notre passé évolutif. Les nez plus étroits des Européens seraient par exemple ainsi une adaptation à des climats froids et secs. Et puis des physiciens américains se sont amusés à faire exploser des gouttes d'eau grâce à des impulsions de rayons X en utilisant un système d'imagerie spécialement développé à cet effet. Ils ont enregistré l'expérience à l'échelle nanoscopique. Les observations montrent qu'il est possible de générer des explosions relativement bien contrôlées, ce qui serait très utile pour étudier de nouveaux phénomènes dynamiques au sein de la matière. La vidéo formidable de cette expérience montrant la vaporisation explosive de ces gouttes d'eau est à retrouver dès maintenant sur le Facebook de La Tête au Carré.